Le but de ce deuxième message est de découvrir encore une fois la juste perspective biblique de l'autorité, afin de trouver la paix, la joie, la libération de nos rébellions intérieures ou ouvertes, non pour devenir des sujets qui ont oublié ou perdu leur statut, mais qui trouvent leur identité claire en Christ, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles du roi, serviteurs et servantes, totalement soumis et qui obéissent avec leur cœur. Voilà un petit peu l'énoncé de ce matin pour notre deuxième parcours biblique sur cette thématique-là. Nous avons tous compris déjà que l'autorité doit avoir sa place. Sans un minimum d'autorité et de soumission, rien ne fonctionne. Tout organisme vivant nous le prouve et notre corps en est la preuve évidente que l'autorité de la tête et la direction que nous avons dans nos pensées et notre volonté, eh bien, tout l'organisme avec ses multitudes de fonctions suivent le commandement de la tête. C'est vrai, l'anarchie est contraire à la vie. On a tant et tant de preuves. Et une société anarchique est une société qui est livrée vers le désordre et vers la destruction. Le livre des juges en est une preuve, où ce mot d'ordre revient tellement souvent, vous vous souvenez, chacun faisait ce que bon lui semblait. Il n'y avait pas d'autorité en place. Il n'y avait pas de roi en Israël. Et pourtant, nous l'avons dit, il y a chez beaucoup de personnes un profond malaise. Quelque chose qui ne joue pas avec l'autorité. Une espèce de refus d'acceptation, une peur et des préjugés, des frustrations, de l'opposition. Pourquoi ? Et nous avons déjà dit que cela vient des souffrances, des frustrations, des oppressions que nous avons subies même en tant qu'enfants. Vous avez entendu que des choses viennent de notre enfance et ont des répercussions dans l'adolescence, la jeunesse et dans la vie active d'adulte plus tard. Il nous faut résoudre ces choses et je proclame ce matin que Jésus-Christ peut restaurer toutes choses, peut rétablir tout ce qui a été tordu, peut redresser ce qui a été courbé, peut redonner une vision droite de ce qui a été faussé dans notre esprit. Le Seigneur le fait, il l'a fait dans beaucoup de gens cette semaine, dans beaucoup de personnes. Mais il nous faut reconnaître les choses, mettre le doigt dessus et laisser Dieu mettre le doigt dessus sans vouloir cacher les vraies racines. Les vraies racines que très souvent nous connaissons. Et ce genre de semaine de prière, c'est aussi justement pour que Dieu révèle les choses cachées, que nous avons oubliées. Vous savez que nous avons une faculté incroyable. C'est que notre conscience, notre pensée, peut mettre dans le subconscient et dans l'oubli des souffrances tellement fortes que nous ne pourrions pas vivre avec. Et cela part dans l'oubli. Mais on vit avec et les conséquences sont quand même là. Pour ne pas souffrir, l'organisme les réduit et les met dans un tiroir caché quelque part. Or Dieu désire aussi que ces choses-là soient libérées, afin que notre fonctionnement devienne heureux, harmonieux, paisible et dans la joie, et que nous puissions suivre le Seigneur avec toute notre énergie, notre force, et non pas avec des handicaps. Non, Dieu ne veut pas une soumission obligée, forcée, qui conduit à la révolte. Nous avons rappelé ce verset où Jésus dit, mais Jésus n'a pas fait de politique. Il n'a pas accusé, mais il a constaté ceci. C'est une parole qui ne concernait pas que les disciples du temps des Romains et de l'Empire romain, sous l'Empire romain, mais pour des chrétiens de tous les temps et de tous les âges. Jésus dit, les chefs des nations tyrannisent et asservissent. Et Jésus ne commence pas à détailler du pourquoi, du comment, mais il dit, il n'en sera pas. Dans mon royaume, dans le royaume de Dieu, ce ne sera pas la même chose. Car quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Lorsque l'autorité et la soumission sont vécues dans la juste perspective d'origine voulue par Dieu, alors il y a vraiment une bénédiction, une libération, une puissance et une protection. Et j'aimerais que nous puissions déjà retenir que la soumission de cœur, la soumission avec une vraie délivrance de toutes nos rébellions intérieures, est véritablement devient bénédiction, nous permettra de trouver nous-mêmes une véritable autorité légitime, je vais en parler encore, autorité légitime, non pas une autorité que l'on prend pour montrer qu'on a quelque chose ou qu'on a reçu quelque chose. Ce n'est pas une autorité qu'on impose, mais une autorité qui se reconnaît. Jésus n'a pas imposé son autorité. Elle a été reconnue par tous, son peuple et ses ennemis, mais surtout par Dieu son Père. L'ennemi, le tyran, l'oppresseur devait reconnaître et plier devant l'autorité de Jésus. Nous avons parlé de cela la dernière fois et je vais encore juste rappeler deux, trois éléments de cela. Et je suis convaincu que le Seigneur veut continuer à libérer et à guérir et à soigner afin que nous puissions comprendre dans l'Église les vrais principes du fonctionnement du royaume de Dieu. Le cœur de l'homme n'a pas seulement subi des souffrances pour s'opposer et contester l'autorité, mais il y a en nous, et nous devons le reconnaître, il y a en nous des germes de rébellion dès notre enfance. Nous devons traiter les péchés à la racine, le reconnaître et les abandonner. Et toute l'histoire d'Israël est là pour nous dire qu'Israël était un peuple au cou raide et rebelle, constamment, mais que le Seigneur voulait le délivrer et lui donner un changement d'esprit, un changement de cœur. Je prendrai vos cœurs de pierre et je changerai en cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de tout cela. Et nous avons affirmé que Dieu a toute autorité. L'Éternel siège dans les cieux pour toujours. Il siège en roi et en souverain absolu pour toujours. Ce qu'il a dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est par son pouvoir que l'univers est en place. Et nous l'avons dit, contester l'autorité de Dieu est inutile et à la limite, c'est un non-sens. Et pourtant, lorsqu'Israël ne trouve pas de l'eau potable, après cette extraordinaire délivrance de l'Égypte, où ils ont vécu quelque chose de si grand, juste après vient le piège de la rébellion. Nous avons vécu une semaine formidable, juste après peut venir un piège, juste après. Soyez prudents. Et cette rébellion en eux, alors qu'ils étaient des esclaves, ils n'avaient pas d'autorité, rien du tout. Et pourtant, la rébellion habitait quand même en eux. Vous n'avez pas besoin d'être dans une place particulière pour avoir des germes de rébellion. Vous pouvez être incognito quelque part et être constamment en contestation intérieure. Et cette rébellion va faire surface déjà à la première étape devant de l'eau qui était imbuvable. Et ils étaient fâchés contre Moïse. Ils contestaient Moïse, mais en fait, ils contestaient derrière Moïse, il y avait Dieu, donc ils contestaient Dieu. Mais bien sûr, on n'ose pas faire monter un poing au ciel. On conteste quelque chose, mais comme nous allons le voir aujourd'hui, si nous contestons l'autorité, nous contestons Dieu. Si nous avons un problème avec l'autorité, nous avons inévitablement un problème avec Dieu. Et ma prière également, c'est que certaines personnes luttent dans leur cœur avec une rébellion, une contestation et une colère cachée contre Dieu. Contre Dieu. Parce que vous n'avez pas compris ceci ou cela. Vous avez prié, vous n'avez pas eu d'exaucement. Nous avons déjà souvent parlé de cela. Mais cette contestation intérieure vous empêche d'avoir la paix avec Dieu et de recevoir son amour. Et certains restent fermés à son amour, demandent l'amour, mais ne reçoivent pas la grâce, ne reçoivent pas la guérison intérieure, ne reçoivent pas. Il faut être libéré de ces contestations intérieures, de ces rébellions cachées contre Dieu. Alors que vous savez avec votre intelligence que ça n'a pas de sens de contester Dieu et que Dieu est souverain et que cette souveraineté a toute sa valeur pour la vie et pour ma vie aussi, je dois m'y soumettre. Mais je n'y arrive pas, frères et sœurs, aujourd'hui. Confrontez ce problème, si dans le secret de votre cœur, vous avez ce genre de lutte. Dieu est allé trouver Caïn, qui luttait, qui était fâché avec Dieu, parce qu'il trouvait que son frère était plus béni que lui, et que ce n'était pas juste à ses yeux, ce qui lui arrivait, que son offrande n'était pas accueillie par Dieu. Il était fâché, irrité, et Dieu vient lui dire, avec douceur, pourquoi es-tu irrité, Caïn? Pourquoi? Si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Ce matin, je vous dis, si vous agissez bien, vous allez aussi relever la tête. Vous allez être délivré. Vous allez être libéré. Mais il faut confesser les choses. Et Caïn, au lieu d'avouer, d'être humble, car Dieu fait grâce aux humbles, il a endurci son cœur et son orgueil et son esprit fermé l'a conduit à résister. Oui, parfois, Dieu permet des choses qui nous dépassent. Mais la souveraineté de Dieu me dit, je ne comprends pas, mais lui comprend. Je ne sais pas, mais lui sait. Je ne sais pas pourquoi, mais lui sait. Et je me courbe sous la souveraineté de Dieu, qui est une souveraineté sur la vie et sur la mort. et j'accepte son plan caché que je ne connais pas encore. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a encore beaucoup de choses, mais tu ne peux pas les comprendre. Acceptons le contrôle du Seigneur sur toutes choses. Le diable est limité dans ses actions et il viendra le jour où lui qui insuffle, qui inspire cette contestation permanente, qui cherche à rebeller l'homme contre Dieu, qui cherche à appliquer la même stratégie que dans le jardin d'Éden, viendra le jour où toute cette pression diabolique, où toutes ces actions maléfiques par les hordes de démons, de toutes sortes de noms, va cesser, où le diable sera lié pour 1000 ans. Dieu est souverain et son plan va s'accomplir. Et un jour viendra où le diable sera jeté dans le feu ardent de soufre, où le feu ne s'éteindra pas. Alléluia. C'est lui qui est derrière ces rébellions et ces contestations, mais il travaille avec le péché de l'homme qui ouvre malheureusement une porte. C'est pourquoi nous disons, nous n'ouvrons aucune porte à l'adversaire. Nous avons rappelé, je voudrais juste encore le dire, que l'autorité a été perdue en Éden, comme nous le savons, à cause de sa désobéissance, mais Jésus, qui est le deuxième Adam, a résisté à Satan, il a triomphé à la croix et il a brisé son autorité. Faites appel à Jésus qui a brisé l'autorité du diable et vous êtes du côté du plus fort. Et puis, en Christ, tu retrouves ta position, tu retrouves ton identité, tu retrouves ton autorité. Chaque chrétien a une autorité sur le monde spirituel négatif et mauvais, sur les tentations. Nous avons une autorité en Christ, car c'est lui qui a récupéré ce que Adam avait perdu. Frères et sœurs, ceci est tellement important, tellement important. Le secret de l'autorité de Jésus, et je ne vais pas refaire les détails de ce que j'avais partagé la dernière fois, c'était la soumission au Père et également sa responsabilité dans le sens qu'il a donné sa vie pour nous. Frères et sœurs, ces deux clés-là conviennent parfaitement à chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes soumis au Seigneur et lorsque nous prenons l'autorité pour servir et donner notre vie, nous avons parlé du couple la dernière fois en disant que s'il est écrit que la femme est soumise à son mari, c'est aussi dit que le mari doit aimer sa femme jusqu'à donner sa vie pour elle. Les deux choses vont ensemble. Une autorité de soumission à Dieu et plus loin, comme nous allons le voir tout à l'heure, dans les autorités qu'il a déléguées, c'est là que nous avons véritablement une autorité lorsqu'elle est une autorité de service. Qu'il n'en soit pas parmi vous de la même manière que les nations qui veulent tyranniser et qui veulent se servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie pour nous. Seigneur, je veux servir. Quel que soit mon niveau d'autorité, on n'a pas tous le même niveau d'autorité dans la société. Quel que soit mon niveau de service, quel que soit mon niveau d'autorité, je veux servir et avoir l'attitude et le comportement de Jésus. Dieu va déléguer son autorité. L'homme et la femme vont être bénis lorsqu'ils sont soumis ensemble au Seigneur. Nous savons que l'ennemi va attaquer cela. La victoire en Christ nous a été acquise et nous restons en Christ, soumis au Seigneur. Nous serons forts dans notre autorité en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'individu. En Christ, nous avons aussi une autorité pour vaincre l'ennemi qui est celui qui veut nous déstabiliser et nous éloigner du Seigneur. Deux éléments ce matin. Le premier, ce sera celui-ci. Dieu délègue son autorité dans la famille. Et nous l'avons déjà dit, je le répète, la base de l'autorité, c'est la capacité de se soumettre. Quelqu'un qui est incapable de se soumettre à qui que ce soit et à quoi que ce soit, il a un gros problème. Il y a un gros problème qui doit être résolu. Et l'autorité légitime n'est pas possible s'il y a un refus de soumission à la base. Le travail d'éducation, c'est de faire comprendre cela dès l'enfance. Et je voudrais ici dire un mot à chaque parent. Bon courage, le Seigneur est avec vous, pour appliquer les bons principes comme voici. Enfants, obéissez en tout à vos parents, et je souligne, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Il y a l'obéissance qui est demandée aux enfants, mais il y a aussi une capacité de bien élever sans casser, sans détruire, sans faire n'importe quoi dans l'éducation. Je ne parle pas en détail, mais chacun peut reméditer là-dessus et s'informer. Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2, « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Car la plupart d'entre nous, nous sommes peut-être plus sous l'éducation de nos enfants qui s'arrêtent à un moment donné quand on devient adulte et indépendant. Mais honorer nos pères et nos mères, ça c'est pour chacun jusqu'à la fin de nos jours, tant qu'ils sont là. Honorer, soutenir, supporter, aider, écouter, soigner, etc. Tout ce qui va avec. Honorer. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Est-ce que quelqu'un veut vivre longtemps? Eh bien, appliquons déjà ce principe. Chaque parent doit jouer son rôle. Et la meilleure éducation, c'est de poser les limites justes avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et que nous puissions être des bons exemples, des exemples crédibles. Une personne me disait, mon enfant ne m'obéit pas. En fait, l'enfant, d'une manière évidente, copiait son papa, qui lui ne respectait pas sa femme, qui n'honorait pas sa femme. Donc l'enfant, déjà à son âge, copiant le papa, ne respectait pas sa mère et n'obéissait pas. La racine était toute simple à trouver. Il faut que l'enfant puisse avoir un exemple crédible devant ses yeux pour pouvoir correctement comprendre l'autorité, la soumission, et pour que ça fonctionne. C'est un psychiatre qui s'appelle Claude Almos qui a dit « Un enfant sans limite n'est ni libre ni heureux, mais pour que l'autorité fonctionne, une répartition des rôles entre les deux parents est indispensable. » Et j'aimerais ce matin également dire pour vous qui élevez votre enfant seul, et vous êtes nombreux aussi, il y a dans nos villes plus de 50% de divorces, où la garde est partagée, etc. Ce sont des problèmes dans lesquels nous sommes impliqués, dans lesquels nous encourageons beaucoup nos sœurs et nos frères souvent, mais plus les sœurs encore que les frères. Je voudrais vous dire que nous avons vraiment tout, vous avez tout notre appui, tout notre soutien et toute notre prière pour que Dieu vous aide. Et parfois, il faut le faire pour être papa et maman à la fois. C'est juste pas possible. Mais j'aimerais vous dire, Dieu va vous aider. Si vous appliquez, vous, les principes de Dieu, vous avez le Seigneur avec vous et le Seigneur va faire au-delà de ce que vous avez pensé, au-delà des règles humaines, au-delà des manques, des fractures, des ruptures qu'il y a dans nos familles. Le Seigneur peut quelque chose. Et je suis sûr qu'il y a ici des enfants de divorce qui ont bien tourné. Et qui ont une vie magnifique et qui ont construit un mariage qui est valable, qui est solide et qui est rayonnant. Donc je crois que Dieu peut réparer aussi. Mais j'étais touché par notre sœur qui veut dire, moi je pensais divorcer il y a quelque temps, mais maintenant la pensée est partie. Alléluia. Pour ceux qui luttent pour récupérer leur couple, parce que le Dieu puissant est aussi le Dieu de la restauration et de la réconciliation. Ce n'est pas utiliser juste un verset biblique en disant « Ah oui, mais tu as été une fois adultère. Ah, j'ai la Bible en main pour te dire je peux me séparer. » On pourrait utiliser un verset, mais ça, ce n'est pas utiliser la parole de vie, mais c'est une parole de jugement et qui enferme les gens. L'évangile est un évangile de réconciliation. Il faut tout investir pour réconcilier. Et Dieu peut faire craquer les plus durs et faire revenir les plus éloignés et ramener à la surface les plus bas tombés. Et changer la mentalité de ceux qui sont tordus peut-être et qui ne veulent plus continuer. Le Seigneur est un Seigneur de miracles, je le crois. C'est des combats très longs, parfois très durs, mais le Seigneur va nous aider. Il va vous aider. Oui, l'enfant doit comprendre les règles. Si l'enfant ne comprend pas les règles, il va buter toute sa vie contre ces choses. Il va toujours contester l'autorité quelque part. Il va dire « oui ». Devenu chrétien, il va dire « Oui, mais moi j'obéis à Dieu, mais pas aux hommes. Pas aux hommes. » Et ça, ce sont des problèmes qui doivent être résolus parce que comme je vais vous le dire dans quelques instants, obéir aux hommes est aussi obéir à Dieu. Ça va ensemble. Nous allons le prouver bibliquement. Quelqu'un disait ceci, « Devenu adulte, je regrette tellement de ce que mes parents m'ont laissé tout faire, au point que devenu grand, je me moquais de l'autorité et je ne respectais personne. » Et malheureusement, ce problème est resté. C'était dans un reportage que j'ai entendu cela. Regardez, deux exemples, juste deux exemples parmi les plus flagrants dans la Bible. Il y a les fils d'Élie. Vous lirez ça dans 1 Samuel 2, je n'entre pas en détail. Le papa était, nous décrit la Bible un peu, il ne voyait pas bien, il était un peu lourd, il était un peu épais, etc. Voilà, ce n'était pas un très bon sacrificateur. Mais ses fils profitaient d'une somme de choses incroyables. Ils avaient des attitudes, des comportements et pratiquaient des péchés au vu et au su de tous. qui était juste une offense directe à la crainte de Dieu. Ses fils vont mourir d'ailleurs. Et Dieu va dire au chapitre 2, verset 25, pour ceux qui notent, et chapitre 3, verset 13, Dieu va dire, « Élie, parce que tu n'as pas repris tes fils, ce que tu aurais dû faire, tu auras aussi part à un jugement. » Vous lirez cela. Deuxième exemple, c'est David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a eu des problèmes en famille, nous le savons. Et un de ses fils s'appelait Adonija, et il nous est dit dans 1 Roi 1, 6, où le Seigneur va dire à David aussi un reproche. « Parce que tu n'as fait aucun reproche à ton fils, il est devenu tout ce qu'il est devenu. » Vous lirez ça, « prétentieux, orgueilleux, ingérable, capricieux, révolté, tout simplement parce que le Père n'a pas pris sa place. » Que Dieu nous aide dans la grande et noble tâche de l'éducation. Maintenant, nous partons au point suivant. Dieu délègue son autorité dans la famille, dans le couple. Je reviens plat là-dessus. Et au niveau de la famille, nous venons de dire quelques éléments qui doivent nous aider. Dieu délègue son autorité dans la société. Voici les deux textes qui seront les textes fondamentaux pour ce petit moment de partage sur cela. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, nous lisons les versets 1 et suivants. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Il faut que le cœur y soit. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Intéressant de la liaison avec l'impôt, hein ? C'est juste la période en fait. Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Nous partons au chapitre 2 de 1 Pierre, 1 Pierre 2, 13. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine ou toute autorité humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé pour lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute autorité établie. Nous lisons encore le verset 18. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Qui n'a pas eu un supérieur qui avait un caractère difficile? Cela fait partie de notre école. Cela fait partie de notre école, d'être ainsi. La première chose que j'aimerais rappeler, lorsque la parole de Dieu dit que nous devons être soumis aux autorités établies, il s'agit d'autorités humaines. Ces autorités, premièrement, doivent être légitimes, c'est-à-dire reconnues et redevables. Ce n'est pas une autorité que l'on revendique, que l'on réclame à corps et à cri, ou que l'on s'autoproclame être quelque chose au-dessus des autres. Ça, c'est une autorité qui n'a aucune valeur. Mais celle qui est donnée comme un mandat par des supérieurs. Même un président d'un pays a été élu par un peuple auquel il est redevable. Il doit être reconnu légitimement. L'autorité élue est redevable envers le peuple qu'elle doit servir. L'autorité doit être légitime, reconnue et redevable. Je viens de réécrire ces mots pour que vous puissiez les intégrer. Pas une autorité que l'on revendique, que l'on réclame, que ce soit dans la société ou dans l'Église. S'il y a des personnes qui réclament une autorité dans l'Église, à corps et à cri, j'aimerais vous dire d'office, vous ne l'aurez pas. Ceux qui réclament un poste à corps et à cri doivent revisiter et revoir d'abord leur attitude. Et si vous avez reçu quelque chose de Dieu, j'aimerais vous dire qu'au sein du conseil pastoral, nous allons le discerner sans problème. Et vous aurez la liberté et le terrain d'exercice pour travailler dans ce que Dieu vous a confié. Mais ceux qui réclament par toutes sortes de moyens d'avoir une place ont d'abord besoin de guérison dans leur cœur pour être d'abord apaisés, être en paix pour servir et ensuite être reconnus. Et Dieu va vous ouvrir une porte, croyez-moi, il va vous ouvrir une porte. L'autorité élue est redevable, je viens de le dire, afin qu'elle puisse servir. Tout ministère spirituel doit également être dans cette notion-là, doit être soumis, rester à l'écoute et rester redevable, quel que soit son rang et son autorité. Je parle souvent avec des serviteurs de Dieu, hommes et femmes, qui servent dans le corps de Christ, dans toutes sortes de ministères, que ce soit comme missionnaire, évangéliste, comme chantre, comme ministère itinérant, etc. Et je pose toujours la même question. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as ton Antioche ? Est-ce que tu as ton Antioche ? Vous connaissez la parole de Dieu ? Acte 13. L'apôtre Paul et les autres qui vont voyager avec lui étaient envoyés à partir d'une base de l'église d'Antioche. Ils partaient en mission apostolique, prophétique, évangéliste, implanteur d'église. Ils partaient depuis une base. Ils allaient faire leur travail. Ils revenaient à cette base qu'il l'avait envoyée, dans laquelle ils sont soutenus en priant pour eux. Ils reviennent se reposer. Ils reviennent prendre leur place. Ils viennent se restaurer. Ils viennent récupérer des forces. Ils rendent témoignage. Ils rendent des comptes. Et ensuite, ils repartent depuis cette base d'envoi, notre Antioche. Et je peux vous dire que dans toutes ces discussions que j'ai eues, il y a bien des gens qui n'ont pas pu me répondre. Je n'ai pas d'Antioche. Pourtant, c'est tellement clair dans le livre des Actes. Personne ne voyageait seul avec rien du tout, sauf exception, peut-être comme l'eunuque d'Éthiopie, etc., des cas de figure où les gens venaient de l'étranger et allaient dans la suite construire leur propre œuvre de Dieu avec, dans un endroit nouveau. Mais on est toujours, quelque part, attaché à sa famille. Et les caractéristiques de l'autorité et de la soumission doivent fonctionner dans cette mesure aussi dans le ministère. Moi, je suis redevable, personnellement, face à la pastorale des églises de réveil, mais aussi face au conseil, face à l'équipe pastorale, face à l'assemblée générale de l'église de réveil. Il n'y a pas d'autorité en dehors de cette redevabilité et de cette intersoumission nécessaire. La soumission est une protection. J'aimerais que vous puissiez intégrer cette valeur, cette réalité. C'est une réalité. Même dans le couple, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement la femme qui est soumise au mari qui doit toujours écouter tout ce que le mari dit. C'est une intersoumission. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu nous voit comme une seule chair. Et l'inspiration passe de l'un à l'autre. Et moi, je peux vous dire que chaque fois que je n'ai pas écouté ma femme, j'aurais mieux fait de l'écouter. J'aurais mieux fait. Parce que c'était elle qui était inspirée au bon moment. Et j'aurais dû tenir compte de cette sensibilité que Dieu a placée à mes côtés. Au lieu de croire que j'avais raison et que de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Parce que quand vous êtes en couple, frères et sœurs, Dieu vous voit comme une seule chair. Il vous voit un et il peut utiliser l'un et l'autre comme il veut pour inspirer, diriger, apporter une lumière supplémentaire, protéger, avertir, etc. C'est ça. Il faut replanter ces choses correctement dans l'œuvre de Dieu et dans la prédication. Revenons aux autorités civiles. Est-ce que vous vous souvenez que Paul parle dans Romains 13 et c'est Pierre qui parle dans 1 Pierre chapitre 2. Pierre et Paul disent la même chose. Soyez soumis à cause du Seigneur. C'est parce que vous êtes soumis à Dieu et parce que vous respectez Dieu que vous allez respecter les autorités. Et Pierre et Paul étaient dans l'Empire romain. L'Empire romain, il est mort depuis longtemps, mais dans ce que nous savons, c'était une dictature impressionnante. Force incroyable. Bien sûr qu'il tolérait beaucoup de choses, mais qui a aussi persécuté les chrétiens sur des longues durées. Persécution sous Néron et les autres. Ils ont fait tant de mal aux chrétiens, tant de mal. Tant de martyrs. Et pourtant, Pierre et Paul vont dire ça alors qu'ils sont sous l'Empire romain. Si eux ont pu vivre cela, écrire cela, inspirés du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous qui avons le privilège d'habiter dans une démocratie qui fonctionne bien. Il y a toujours des choses à changer. La Bible est remplie d'exemples où des hommes et des femmes de Dieu ont dû vivre sous des dictatures oppressantes, mais qui ont su vivre dans la crainte de Dieu et le respect de l'autorité et la soumission. Joseph, sous Potiphar, puis après sous Pharaon, a eu le succès. Il a été reconnu pour finir, devenu premier ministre. Daniel, qui a été un enfant enlevé de sa patrie tout jeune, il a été exilé, il était réfugié à Babylone. Il a vécu sous Nebuchadnezzar, sous Belshazzar, sous Darius, et pour finir sous Cyrus, quatre rois, quatre empereurs qui étaient juste terrifiants dans leur autorité. Il a été à la cour de ces rois et il a compris la fonction de ce respect de l'autorité. Regardez simplement, il y a un texte, je vais le retrouver, un texte qui nous dit dans Daniel chapitre 11, verset 1, il nous est dit que Daniel était là pour soutenir le roi. Daniel chapitre 11, verset 1. La première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Il était à Babylone, imaginez-vous. Babylone. C'était des dictateurs qui avaient droit de vie et de mort sur les gens, simplement. Et il était là pour soutenir. Frères et sœurs, est-ce que nous avons cette même compréhension? Et cela rejoint parfaitement le Nouveau Testament qui va nous dire justement ceci. J'exhorte, dit l'apôtre Paul, avant toute chose. Et j'aimerais vous dire que cette semaine, on a prié pour beaucoup de choses, mais si nous appliquions un peu plus cette parole-là, avant toutes les autres choses, de prier pour les autorités, de faire des prières, des supplications, requêtes, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. J'aimerais entendre davantage de prières pour les autorités. J'ai eu le privilège de présider avec mon frère Samuel la rencontre du réseau à Genève au mois de février, où il y avait M. Maudet qui était là. Pour ceux qui étaient là, vous le savez. Et je lui ai dit que j'encouragerais le peuple de Dieu à prier pour les autorités de Genève. Et ce matin, je vous le rappelle, prions pour les autorités à Genève. Elles ne sont peut-être pas chrétiennes, elles ne prient peut-être pas tous les jours, mais Dieu nous dit une chose, c'est pareil comme du temps des Romains, c'est à nous de prier pour eux. C'est à nous de prier pour eux. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité, c'est notre droit de service de prier pour eux, d'intercéder, de mener un combat spirituel afin que les puissances des ténèbres qui essayent de les manipuler, pour que la société s'en va dans les directions mauvaises et s'en aille dans la perdition et dans finalement la confusion et le désordre. Ces esprits mauvais doivent être combattus par une église qui tient debout et qui intercède et qui lutte, comme dans le livre de Daniel. Comme dans le livre de Daniel. Lorsqu'il priait, eh bien, les luttes spirituelles allaient d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'il priait, eh bien, les anges de Dieu combattaient pour le royaume de Dieu et pour l'accomplissement des choses selon le plan de Dieu. Ceci est très important. Nous devons faire ce que nous pouvons, frères et sœurs. Nous devons faire ce que nous pouvons. Nous avons bien sûr des moyens légaux comme des pétitions, des initiatives. Nous pouvons même demander des rendez-vous avec des élus. Mais avant tout, frères et sœurs, soyez des citoyens modèles, avec un témoignage sans faille. Regardez ce que dit Philippiens 2. Il nous dit « Soyez purs, irréprochables, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme un flambeau dans le monde. » Le chrétien qui conteste, peut-être face à une injustice, doit aussi en même temps mener une vie modèle, doit être un exemple pour les autres, doit avoir une crédibilité devant les gens parce qu'il vit une lumière, il vit dans la droiture, il vit dans l'intégrité, il vit d'une manière correcte. Paul avait usé du droit de revendication, mais il était en même temps modèle, il n'a pas accusé, il n'a pas insulté, il est resté respectueux face aux autorités qui le condamnaient injustement. Il a dit « J'ai le droit de faire appel à César, donc j'irai à César. » Et il aura ce droit. Nous avons des droits. Nous ne sommes pas des moutons juste à ne pas pouvoir réagir. Nous avons certains droits, mais notre attitude, c'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu regarde. C'est Kennedy qui a dit « Ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais regardez ce que vous pouvez faire pour l'État. » Nous avons beaucoup d'attentes que les gens et l'État, et etc., fassent des choses pour nous. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que je peux faire pour les autres au niveau civil, dans notre engagement pour la société. Ne soyez pas continuellement contre les choses, contre ceci, contre cela. Soyons pour quelque chose. Ayons de l'initiative, ayons des bonnes idées. Construisons quelque chose. Donnons des exemples en tant que programme d'église. Quelque chose qui touche la société. Quelque chose qui bénit la société. À Service Pâques, vous pouvez rendre service à la ville. Vous pouvez bénir la ville. C'est vrai que les portes sont maintenant très limitées. Et pourtant, l'idée derrière tout cela est très bonne. Je ne vais pas prolonger trop ce matin et terminer gentiment. On pourrait dire beaucoup de choses sur cela. Et mon temps ne permet pas d'entrer dans tous les détails. Si vous avez des questions précises, faites-les-moi parvenir afin que je puisse, dans le troisième message, apporter quelques éléments de réflexion et de réponse. Mais l'ultime obéissance revient toujours à Dieu. Daniel était soumis aux ordres, mais lorsqu'il s'agissait d'adorer Dieu seul, il ne se pliait pas devant les idoles. Les apôtres, lorsqu'ils étaient devant le Sanhédrin, et qu'ils recevaient l'ordre de se taire, ils ne pouvaient pas se taire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Daniel est parti de la fosse aux lions parce qu'il a refusé d'arrêter de prier. Et les amis ont été mis dans la fournaise ardente parce qu'ils ne se sont pas pliés devant les idoles de Babylone. Et après, ils ont dit, nous sommes joyeux d'avoir été jugés dignes d'avoir été battus pour le Seigneur. Parfois, cette obéissance passe par une souffrance, mais c'est une souffrance transfigurée par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je termine par ce dernier verset que j'ai mis. Ceci est le résumé de ce que je viens de dire. Faites ce que vous pouvez. Et l'ultime obéissance revient toujours à Dieu. Nous avons l'exemple également des sages-femmes en Égypte qui ont menti à Pharaon lorsqu'elles devaient faire périr les enfants mâles des femmes israélites. Ils ont refusé et elles n'ont pas dit la vérité, en tout cas pas en entier. Et le Seigneur a béni ces femmes. Donc il y a des limites à la soumission à l'autorité civile lorsqu'elles touchent les principes éthiques qui sont des principes fondamentaux de la parole de Dieu. Je termine par ce texte. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer.